Voilà, bonjour à chacun, à chacune. J'ai le plaisir ce matin de vous accueillir dans ces locaux de l'église évangélique de Meyrin et de vous souhaiter la bienvenue pour ce culte que nous voulons rendre à notre Dieu. Bienvenue aux habitués, bienvenue à celles et à ceux qui nous visiteraient pour la première fois. J'aimerais aussi souhaiter une bienvenue particulière à Willy et Catherine Schicknecht qui viennent de l'église de l'Espérance au Grand Lancy. Pour un échange de chair, Willy nous apportera ce matin la prédication et notre pasteur Roger Sowell apporte la prédication à l'Espérance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je trouve que le temps file. Ah, les journées s'enchaînent les unes après les autres et c'est vrai que ce dimanche marque déjà le début des vacances de février, alors que nous venons à peine, me semble-t-il, de vivre celle de Noël. Vous le savez aussi, enfin je pense que là je n'apprends rien à personne, hein, ce dimanche marque la Saint-Valentin, nous sommes le 14 février, et là aussi hein, le temps file, après les soldes de début d'année, voilà qu'à nouveau on sort le porte-monnaie pour se faire des cadeaux à la Saint-Valentin. Là je regarde ma femme qui sourit, je ne vous explique pas pourquoi, voilà. Le temps file, je disais, les jours s'enchaînent, les semaines s'enchaînent. Et dans la Bible, nous trouvons cette invitation dans le psaume 46 qui dit ceci, le psalmiste nous invite à s'arrêter. Arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez-vous. Le début du psaume nous dépeint un monde plutôt agité, un monde plutôt troublé, d'abord par des phénomènes violents naturels. On lit au verset 3 et 4, « Quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes, nous ne craignons rien. » Voilà, un monde agité par ces violences naturelles, mais aussi par la violence des hommes, bien sûr. Au verset 7, le psaume dit « Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent et s'affrontent aussi. » Et je crois que c'est peu dire que nous vivons hein, aujourd'hui encore dans un monde agité, dans un monde troublé. Mais Dieu est une forteresse, nous dit encore le psalmiste. Il est celui qui met fin au combat, il est celui qui apporte la paix par des actes stupéfiants qu'il accomplit sur la terre. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus ne dira pas autre chose, notamment à Marthe. Vous vous souvenez peut-être, ça c'est en Luc 10, où Jésus dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Et vous savez de quoi Jésus voulait parler, hein, celle de s'arrêter au pied du Christ, de reconnaître qu'il est le Seigneur, le Dieu. Alors oui, je crois que ça fait du bien de s'arrêter de temps en temps, alors que le temps file, les jours s'enchaînent. Il est bon, dimanche après dimanche, de marquer une pause pour revenir à l'essentiel. Et c'est peut-être, hein, je le pense, une des bonnes choses qu'apporte cette fête de la Saint-Valentin, parce qu'on peut aimer, on peut détester cette fête, j'ai tout entendu. Mais je crois que ça reste une belle occasion, justement aussi de s'arrêter, de réfléchir, ou mieux encore de prendre le temps de soigner nos relations, dans le couple bien sûr, et premièrement, mais aussi beaucoup plus largement, dans la famille et dans tous nos autres types de relations. Oui, la fête de Saint-Valentin peut nous amener dans cette année à prendre ce temps de s'arrêter, et de réfléchir. Nous sommes tous amoureux, ça je le crois. Hein? La Saint-Valentin, la fête, c'est des amoureux, et nous sommes tous des amoureux. Mais de qui, de quoi? Et est-ce que c'est encore solide ou plutôt fragile? Le Seigneur veut consolider cet amour entre nous. S'arrêter pour revenir à l'essentiel. Hein? Alors que le monde s'agite, que le monde tremble, alors que nous pouvons être nous-mêmes malmenés, par la vie, ou bien simplement être intérieurement hein, troublé, agité, nous sommes invités ce matin à nous arrêter et à rencontrer notre Dieu. Je vous invite à prier. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, car c'est toi qui as fixé ce rendez-vous. C'est toi qui nous appelles à cette rencontre ce matin. Et nous nous réjouissons de pouvoir vivre ce temps avec toi. Toi qui es ce Dieu d'amour, toi qui te révèles au travers de Jésus-Christ comme, oui, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de paix, ce Dieu de toute joie. Et nous te prions, Seigneur, que dans ce temps de rencontre, tu puisses remplir nos cœurs de calme, de paix, de sérénité. Que nous puissions venir à toi tel que nous sommes, te déposer ce qui nous agite intérieurement et recevoir de toi cette joie, cette sérénité que tu nous promets. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu de l'amour et tu veux venir nous bénir dans cet amour que tu nous portes et tu veux venir aussi bénir cet amour que nous portons les uns aux autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à vous lever. Nous voulons entrer dans un temps de louange. Nous voulons louer notre Dieu pour qui il est. Nous voulons louer notre Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Je vous invite à chanter le 847. C'est dans le calme que nous nous attendons au Seigneur. Arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine la terre, je domine les nations. Oui, nous croyons en cette providence divine. Nous croyons que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui encore, derrière toute chose, et qu'il conduit ceux qui ont foi en lui sur un chemin d'espérance et de salut. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Je vous invite à chanter 982, « C'était toi ». Oui, Seigneur, nous voulons proclamer ce matin que ton amour est là. Nous croyons, Seigneur, que tu as débordé et tu as déversé ton amour sur nous en offrant ton Fils Jésus-Christ à la croix pour nous laver de tout péché. Seigneur, c'est remplis de cet amour que nous voulons venir vers toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Permets-nous de recevoir tout à nouveau toutes les bonnes choses que tu veux nous donner ce matin. C'est vrai que nous fêtons la Saint-Valentin, cette fête des amoureux, cette fête de l'amour. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu as encore pour chacun d'entre nous ce matin des cadeaux de ta grâce, des cadeaux de joie, des cadeaux de paix, des cadeaux d'espérance pour chacun d'entre nous. Et je te prie que nous puissions venir à toi pour te déposer toutes ces questions que nous avons et qui sont encore sans réponse. Je te prie aussi pour que tu nous donnes le courage ce matin de venir devant toi pour te déposer tout ce qui fait ou toutes nos lâchetés, toutes nos peurs, toutes nos mesquineries, tous nos égoïsmes, toutes ces choses qui empiètent sur nos relations et rendent difficiles nos relations les uns avec les autres. Nous voulons te déposer tout cela parce que nous savons que nous pouvons venir à toi tel que nous sommes, Seigneur, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde et que tu as manifesté cet amour en Jésus-Christ. Alors libère-nous, Seigneur, de tout cela, libère ton amour en nous pour que nous puissions, Seigneur, être dans la joie ce matin, que nous puissions te chanter, te louer, te glorifier dans cette joie que toi seul peux donner, dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Bénir, c'est dire du bien, et nous voulons encore et encore dire du bien de notre Dieu. Dieu est grand, Dieu, tu es grand. Je vous invite à reprendre place. Merci au groupe. Dieu, tu es grand. Je suis convaincu que nous ne pouvons pas le dire de tout notre cœur sans qu'il y ait eu révélation. Dieu se révèle. Il se révèle aussi au travers de sa parole que nous voulons entendre ce matin. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons, te bénissons pour cette Bible, cette parole de Dieu que nous pouvons tenir dans nos mains, qui peut nous accompagner jour après jour, et dans lequel, Seigneur, nous pouvons mieux te comprendre, mieux te connaître, mieux connaître aussi ton dessein pour chacun d'entre nous, ton appel, ta voix pour chacun. Alors j'aimerais te prier, alors que nous allons entendre notre frère Willy, te demander que cette parole que nous allons entendre puisse trouver dans nos cœurs un terrain propice, que cette parole puisse germer, que cette parole puisse nous toucher, que cette parole puisse grandir et porter du fruit dans nos vies. Nous bénissons notre frère au milieu de nous et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Merci Lily.
Alors bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir et merci de nous avoir prêté Roger pour ce dimanche, c'est très bien. Alors ce matin, je voulais partager quelque chose d'un peu osé avec vous. Alors Roger m'a dit que vous parlez des personnages un peu inconnus. Et comme c'est le jour des amoureux, je me suis dit, on va combiner les deux choses, on va parler justement du prophète Osée. Voilà, et c'est vrai, c'est un peu osé d'en parler un dimanche des amoureux, parce que c'est vrai, on parle dans ce livre-là de l'amour, mais quand même légèrement différent. On verra bien. Et vous connaissez certainement déjà cette histoire qui est... Voilà, un peu particulière. Alors, on va parcourir en quelques minutes ce livre d'Osée pour voir le message essentiel de ce prophète qui a vécu au 7e siècle avant Jésus. Il a vécu au royaume du nord d'Israël, voilà le royaume qui était divisé en Juda et en Israël du nord. Et ses collègues, Esaïe et Michée, ils étaient au sud et lui, il était au nord. Et ils ont parlé, bien sûr, de la part de Dieu. Mais bon, il avait des prophètes qui ont parlé, c'est vrai, il y a d'autres qui ont fait plus que parler, parce que c'est eux-mêmes qui sont devenus en quelque sorte des signes pour le peuple, pour le rappeler des vérités qui étaient importantes, des vérités que Dieu voulait faire passer au peuple, et parfois même en les choquant, en les réveillant. Et donc, justement, Osée, il est un de ces prophètes qui a choqué, qui a surpris, et donc qui a voulu, et je pense à Dieu, qui a voulu réveiller son peuple par cette histoire d'Osée. Alors... Donc ce prophète, dans les premiers chapitres, si vous avez votre Bible, vous pouvez peut-être suivre si vous voulez, alors nous lisons quelque chose de très surprenant. Il dit à ce prophète, va, dans le verset 2 du chapitre 1er, va prendre une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Ouh là là. Alors, vous pouvez vous imaginer les chefs religieux quand ils ont vu Osée aller vers les prostituées et en épouser même une. Ils se sont dit, mais celui-là qui se dit prophète, comment peut-il prendre donc une femme impure, une femme méprisée, une femme en principe qui aura dû être condamnée et mise à mort? Je ne sais pas si Osée lui-même, il avait quelques problèmes avec cette idée. J'imagine que ce n'était pas tout à fait facile. Mais nous lisons dans le verset suivant, alors Osée alla prendre Gomère. Donc il a donc obéi, il a pris une femme prostituée, et il s'est marié avec elle. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y avait là encore... Donc, par la suite, des enfants qui sont nés de cette liaison, de ce mariage. Et je veux juste mentionner les trois enfants par leur nom. Le premier enfant, c'est un fils. Il s'appelait Israël. Alors, ceux qui connaissent un peu la Bible, ils savent bien que Israël, ce n'est pas vraiment un nom pour un enfant. C'est le nom d'un champ de bataille. Est-ce que vous donnerez à votre enfant un nom d'un champ de bataille? Pas vraiment, parce que Israël voulait dire, par sa signification, « je vous ai dispersé ». Mais tout le monde savait que la vallée d'Israël, c'est une vallée où il avait pas mal de guerres, il avait des affrontements entre des armées d'Israël et aussi des armées, bien sûr, ennemies. Et donc, c'était vraiment impossible de donner ce nom à un enfant. Alors, quand la maman se promène avec sa poussette, et, ah, il est mignon, votre fils, comment il s'appelle? Israël. Alors, on voit déjà les cheveux s'hérisser de ces personnes, parce que c'était un nom, pas du tout, pour un enfant. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième enfant, au verset 6, une fille cette fois-ci, qui s'appelle Lo-Ruhama, ce qui veut dire pas aimé, pas aimé du tout. Alors, pas un très joli nom pour une fille non plus. Bon, si pour le premier, c'était donc plutôt une déclaration de guerre où Dieu dit, dans cette même signification, « je vais disperser donc le peuple Israël », ici, Dieu dit par cet enfant, par le nom qu'il a donné à cet enfant, « mais je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël, je ne lui accorderai plus mon pardon ». Alors peut-être les gens n'ont plus demandé le nom des enfants. Et ça va encore plus loin, pour le troisième enfant, encore un fils, le ami, pas mon peuple, encore une signification plutôt ou très négative. Donc maintenant cet enfant signifie pour vous que vous n'êtes plus mon peuple. Et Dieu rajoute dans ce même verset, c'est le verset 8 et 9, donc il dit, je suis, donc cette révélation du nom de Dieu, hein, je suis qu'il a donné à Moïse dans l'Exode, je suis donc, et pourtant je ne suis plus rien pour vous. Donc je n'ai plus aucune importance chez vous. Alors, quelle belle famille. Le papa un prophète, la maman une prostituée, être converti, on verra bien. Et les enfants qui portaient des noms, qui étaient plutôt des menaces, qui étaient des messages menaçants pour le peuple Israël. Ouh là là, alors ça c'est plutôt dur. Mais ce n'est pas fini. Ça continue encore. Nous lisons dans le chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 15, que la maman... elle a encore quitté la famille, elle était encore infidèle, et nous lisons au verset 15 qu'elle court encore après ses amants et consacre du temps aux idoles. Verset 15 du chapitre 2. Et par cette famille, vraiment un peu particulière, cette famille de prophètes, Dieu, il voulait simplement dire à ce peuple, et vous, vous ressemblez à cela. Vous ressemblez exactement à cette famille. Je ne dis pas vous, hein. C'est eux. Bien sûr. Voilà. Mais c'était quand même une image pertinente de la société de l'époque où tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Il avait une grande injustice sociale, hein, donc vous avez le message de Michée par exemple, mais aussi d'Ésaïe, et bien sûr aussi d'Osée, et d'autres prophètes, Amos aussi, qui a vécu dans la même époque. Il avait une grande injustice sociale, et le peuple, ils ne connaissaient plus Dieu, ils ont vécu comme s'il n'existait pas, et c'est pour cela, voilà, je ne suis plus rien pour vous, puisque vous m'avez détourné le dos. En fait, on n'est pas si loin de ça aujourd'hui. n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Moi, je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu la pub, ça m'a intrigué, peut-être ce sera un projet pour la retraite. Un livre qui s'intitule, qui était présenté dans Christianisme d'aujourd'hui, et ça m'a intrigué de voir ce titre, Les athées chrétiens. Alors, des gens qui se disent chrétiens, mais qu'ils vivent comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Ils sont chrétiens sur le papier, peut-être parce qu'ils viennent à l'église le dimanche, parce qu'ils font certaines choses chrétiennes, mais en fait, ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Et c'est un peu comme ça aussi à l'époque, et peut-être on peut trouver des parallèles même vers aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui. Mais bon, bien sûr, on ne peut pas arrêter là. Dieu ne serait pas Dieu s'il n'avait pas un changement de ton, s'il n'avait pas un message différent que seulement « Mais vous, vous êtes digne de jugement, je vais vous disperser, je ne vous aime plus, je ne vous pardonne plus, et encore, donc, je ne suis plus votre Dieu puisque je n'ai plus d'importance pour vous. » Non, ça, ce n'est pas le message que Dieu voulait faire passer par le prophète Osée. Et nous avons un changement de temps entre le verset 15 du chapitre 2 et le verset 16 où Dieu dit, c'est pourquoi je vais la reconquérir, donc en parlant de cette femme qui court après les idoles, qui court aussi après ses amants, je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. Donc je vais essayer de la convaincre de changer de vie. Et je tourne la page et on lit encore le verset 21-22 de ce deuxième chapitre. Et il dit, « Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot de la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. » Tant que cette femme infidèle, qui représente donc le peuple d'Israël, il ne veut pas juste la laisser partir comme ça. Non, il a dit, je vais la reconquérir, je vais lui parler, je vais parler à son cœur, et en fin de compte, je vais la fiancer pour toujours à moi, tant qu'elle sera toujours pour moi, et elle connaîtra, tant que l'Éternel, elle me connaîtra, moi, son Dieu. Et encore, aux enfants, le Seigneur change la signification de leur nom. Il dit dans le verset 25, juste après, il commence déjà au verset 23, mais au verset 25, il dit, « Mais toi, Israël, ton nom signifie dispersé, c'est vrai, mais je vais le changer en je semerai. » Donc, par toi, on va répandre la semence, et là où il y a semence, il y a aussi espérance, n'est-ce pas? Et à la fille qui s'appelle non-aimée, il dit, je prodiguerai mon amour à toi, verset 25. Et à l'autre qui s'appelle pas mon peuple, tu n'es plus mon peuple, il dit, et maintenant tu seras mon peuple, et encore tu vas répandre et dire, et toi tu es mon Dieu. Donc voilà le projet de Dieu, il veut reconquérir donc son peuple. Il veut leur donner une espérance, parce qu'il veut encore semer. Et il veut lui témoigner son amour. Et encore, il veut dire quand même, vous êtes mon peuple et vous allez reconnaître que moi, je suis votre Dieu. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais bon, maintenant, au chapitre 3, il y a encore retournement de la situation, parce que maintenant, Dieu parle encore une fois à Osée. Va encore aimer une femme adultère, aimant le mal. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent de gâteaux des raisins consacrés donc de nourriture qui était consacrée aux idoles. Alors bon, maintenant les commentaires sont peut-être pas d'accord les uns avec les autres, parce que les uns disent c'est encore la même femme, les autres disent non c'est une autre, mais bon, peu importe, le message est là, donc Dieu ne lâche pas. Il veut encore montrer son amour, il veut encore témoigner son amour, mais tout d'abord il veut aussi leur montrer la vérité, la réalité des choses, que eux, ils ont donc abandonné leur Dieu. Mais Osée, il a encore fait ce que l'Éternel a dit au verset 2, « Je rachetais donc une femme au prix de 15 pièces d'argent et 450 kilogrammes d'orge. » Et il avait une histoire d'abstinence entre elle et lui pendant un long moment qui signifie la dispersion du peuple, effectivement, de la captivité assyrienne qui était imminente, mais aussi la promesse d'un retour, chapitre 3 et verset 5. Après cela, ils reviendront à l'Éternel, leur Dieu. Voilà, donc on peut dire, Dieu, il souffle le chaud et le froid dans les chapitres 1 jusqu'à 3. Alors une fois, c'est un message où il menace, où il leur met vraiment la réalité devant les yeux d'une façon tellement crue mais frais quand même. Et après, il leur dit, mais non, ce n'est pas fini, je vais encore vous chercher. Je vais encore trouver des solutions, je vais encore changer pour que vous ayez une espérance, pour que vous puissiez donc profiter de mon amour, pour que vous puissiez donc vous appeler peuple de Dieu et pour que vous puissiez dire, oui, toi, l'Éternel, tu es mon Dieu. Ces trois chapitres montrent que Dieu est amèrement déçu de son peuple. Parce qu'il les a appelés, il leur a envoyé des prophètes, il a fait des miracles, il les a punis, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour les ramener dans sa présence, pour qu'ils soient son peuple, mais rien ne marchait. Et donc, par ces trois chapitres, il voulait les réveiller, il voulait leur dire, mais voilà, ça ne va pas ce qui se passe. Tout en témoignant de son amour et de son... Oui, de son affection vraiment inconditionnelle et éternelle. Et là, oui, on dirait que Dieu, il révèle son cœur dans ces trois chapitres. Il y a Paul qui dit, « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » De Timothée 2:13. Donc, ça c'est le cœur de Dieu. Même si nous sommes infidèles, ce qui ne doit pas nous encourager à devenir infidèles, bien sûr, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même, parce qu'il est amour, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est notre Dieu. Et la preuve de tout cela, c'est Jésus, qu'il a envoyé le Seigneur Jésus, qu'il a trouvé une solution à notre problème de cette infidélité, de notre péché, qu'il a trouvé la solution, Jésus, qu'il a sacrifié pour que nous puissions être pardonnés, libérés, délivrés de notre péché et du jugement. Merci Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, on va juste résumer les chapitres 4 jusqu'à 14. Parce que là, maintenant, il dit, vous, les Israélites, écoutez la parole que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec les habitants de ce pays. L'Éternel est en procès. Et dans ce chapitre 4 jusqu'à 14, il énumère tout ce qui ne va pas. Déjà là, dans ce verset, dans ces deux, trois phrases qui suivent, il dit, la vérité a disparu dans le pays, il n'y a plus d'amour, on n'y connaît pas Dieu. Et après, tout se passe. Les chefs religieux tout d'abord, les responsables politiques et finalement tous les peuples. Tous ceux qui vivent sans Dieu et qui font un peu n'importe quoi. Ils dénoncent les trahisons, l'injustice, la débauche, l'idolâtrie, la fausse repentance, des crimes et toutes sortes de choses. Alors, juste en, en parcourant les chapitres, vous pouvez constater que voilà, Dieu, il énumère vraiment tout, et donc, il n'oublie rien. Et il annonce des jugements sévères, et surtout cet exil qui est imminent, et qui va s'abattre sur le peuple d'Israël, le royaume du Nord tout d'abord, plus tard aussi l'exil babylonien sur le royaume du Sud. Mais tout au long de ces 10 chapitres, entre 4 et 10 et 14, il y a aussi plusieurs déclarations d'amour. Et voilà, on retrouve la Saint-Valentin. Donc, ces déclarations d'amour où il parle, comme il a dit dans le chapitre 2 déjà, où il parle au cœur de son peuple. Déjà, il change de nom. Pas Dieu, mais le nom du peuple. Tantôt, il appelle Israël, les Israélites, voilà, c'est logique. Mais encore, à plusieurs reprises, si j'ai bien compté 20 fois, 28 fois, il dit aussi Éphraïm, ce qui est un peu un nom de tendresse, comme chéri, c'est mon préféré. Donc Éphraïm, donc ça c'était vraiment ce nom qu'il utilisait, voilà, peut-être comme si c'était un enfant. Et si nous tournons maintenant vers le chapitre 11, nous trouvons là des versets très étonnants encore. Chapitre 11, et le verset 3 et 4, où il parle de ce fils, de ce Éphraïm, cet Éphraïm qu'il avait donc porté, et il le dit ici, « Pourtant c'est moi qui pour les premiers pas ai guidé Éphraïm, et qui l'ai porté dans mes bras, mais il n'a pas voulu savoir que moi je prenais soin de lui. C'est par le lien d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais, et j'étais pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. » Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Dieu? Il dit, voilà, donc, Éphraïm, ce peuple d'Israël, c'était mon enfant. C'est l'enfant que j'ai chéri, que j'ai fait grandir, que j'ai pris soin d'eux. Je les ai conduits par des liens d'une tendresse toute humaine, donc pour qu'ils puissent vraiment se sentir aimés. Et encore, je les ai conduits par des cordes d'amour. Je lui ai donné à manger. Je l'ai caressé. Donc, je fais tout pour qu'il soit à l'aise. Et donc, comment pourrais-je maintenant l'abandonner, cet enfant qui a grandi dans mes bras? Impossible. Et je me suis dit, certainement l'un ou l'autre d'entre vous, il pourrait aussi témoigner de ces cordes d'amour par lesquelles Dieu nous a conduits. Peut-être parfois tirer un peu, parfois pousser un peu, ces cordes d'amour que nous pouvons reconnaître dans notre vie. Là où Dieu nous a fait du bien, où il a pris soin de nous, où il nous a gardés. Donc, de même, donc, il parle de cet amour qu'il avait pour cet enfant, pour Éphraïm, son chéri, son bien-aimé. Et il conclut dans le verset 8, « Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël, te traiter comme Adma et te rendre semblable à Tseboïm? Mon cœur est tout bouleversé. Je suis ému, tout ému de pitié. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère, je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, parce que moi je suis Dieu, je ne suis pas un homme, je suis saint, moi qui suis au milieu de vous, je ne viendrai pas animé de colère. Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm ? » Voilà encore une déclaration, une déclaration d'amour, on pourrait dire, voilà. Parce que je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Un homme t'aurait rejeté depuis longtemps, mais moi je suis Dieu. Encore, nous retrouvons cette fidélité de Dieu. Donc, même si tu es infidèle, même si tu étais infidèle, maintenant, je ne peux pas t'abandonner. Donc je vais encore essayer de te tirer vers moi avec ces cordes d'amour. Et donc je viendrai à toi parce que je suis Dieu, je suis saint, je suis juste. Donc je veux prendre soin de toi. Et dans ce chapitre, nous avons donc ces témoignages de cette affection de Dieu pour son peuple. Et après, on a aussi, dans ce même chapitre, à plusieurs reprises, des appels à retourner, à changer. Si vous tournez dans le chapitre 10, alors je vous invite à lire le verset 12, par exemple. Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Donc voilà, il leur a témoigné de cet amour et maintenant il les appelle. Et revenez. Faites un nouveau commencement, défrichez-vous un champ nouveau, semez la justice et vous allez récolter aussi la justice, vous allez récolter l'amour et donc vous serez encore son peuple. Alors cela, il dit à plusieurs reprises dans ce chapitre, peut-être juste encore un exemple dans le chapitre 14, le tout dernier chapitre, dans le chapitre 14 donc, dans les versets 1 jusqu'à 4, bon, je lis juste le verset 2, « Reviens donc Israël à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Apportez vos paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui, pardonne toute faute, accepte qu'en retour nous t'offrirons un sacrifice en guise de taureau l'hommage de nos lèvres. » Donc reviens, demande pardon, engage-toi, pour servir l'Éternel encore, pour le louer, pour être dans la communion avec le Seigneur. Nous devons beaucoup résumer, voilà, parce que c'est un livre assez complexe. Mais donc cet appel qui est vraiment très, oui, on dirait très vibrant, un appel vibrant pour qu'il revienne donc à l'Éternel. Et ensuite, cette promesse de la guérison, au verset 5 du même chapitre. « Moi, je les guérirai de leur apostasie, je leur témoignerai librement mon amour, parce que ma colère se détournera d'eux. Oui, je serai pour Israël semblable à la rosée, il fleurira comme le lit et s'enracinera comme les cèdres du Liban. » Et ainsi de suite, tant qu'il leur donne plein de promesses. Moi, je les guérirai de leur apostasie. Je leur témoignerai librement mon amour. Oui, je serai pour Israël semblable à la rosée. Donc nous avons ici un prophète qui était lui-même un signe par ce qu'il a vécu, par sa vie de famille, par ce qu'il a dû faire, qui était un témoignage, tout d'abord contre Israël, mais en même temps aussi un témoignage de la fidélité, de l'énorme fidélité de la part de Dieu. Alors peut-être on se retrouve quelque part dans ce livre aussi, peut-être du fait que, voilà, peut-être, oui, je m'appelle chrétien, je suis le peuple de Dieu, je suis un enfant de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, ou j'appartiens au peuple de Dieu. Et pourtant, je vis comme si Dieu n'existait pas. Et là, Dieu nous invite à revenir. Il veut donc parler à notre cœur, il veut nous regagner pour que nous puissions rentrer dans cette communion avec lui et marcher avec lui, vivre avec lui et donc bénéficier aussi de ses bénédictions. Peut-être il nous dit aujourd'hui, mais défrichez-vous un champ nouveau. Quittez le chemin battu, ce chemin qu'on a toujours utilisé, mais osez avec osez, un nouveau chemin, une nouvelle route. Osez changer quelque chose dans votre vie. Et encore, il leur dit, je vous ai tiré avec des cordes d'amour. Les cordes d'amour que nous pouvons certainement voir aussi dans notre vie. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que cela ne suffit pas pour que vous reveniez à moi pour vivre avec moi? Alors, dans ce sens-là, ce livre est un livre d'amour de la part du Seigneur, mais avec quelques images choquantes, c'est vrai, qui sont parfois un peu difficiles à avaler, à comprendre même. Mais c'est un appel à revenir à l'Éternel, à marcher avec lui, parce que lui, il veut nous bénir. Lui, il veut nous témoigner de son amour. Il veut être pour nous comme la rosée du matin. On en voit tout le matin, en principe, chez nous maintenant aussi. Mais on est en Israël, à un certain moment, il y a quelques années, et on était dans le désert. Et le guide nous a montré une plante qui fleurit uniquement avec la rosée du matin. Et on était tellement impressionnés de voir cette graine qui s'ouvrait d'une vitesse incroyable, juste avec une goutte d'eau. Oui, Dieu, il veut nous bénir, il veut nous faire du bien, il veut donc qu'on sorte des chemins battus pour défricher un champ nouveau, pour semer la justice, pour commencer une nouvelle vie avec lui, pour oser quitter les chemins battus. Il nous déclare son amour, comme il a déclaré aussi à son peuple et par cette image du prophète Osée. Donc, osons quitter ce chemin qui nous mène peut-être nulle part et cherchons le chemin que Dieu ouvre devant nous. Amen.
Merci Willy pour ce que tu nous as apporté de riche. Je vous invite à prendre quelques instants pour retenir un point, une chose de ce que nous avons entendu et aussi de pouvoir le transformer en prière. Je vous invite à prendre ce temps ensemble et je terminerai par la prière.
ce jour de l'amour, où nous fêtons l'amour et les amoureux. Seigneur, quel privilège de dire que tu es amoureux de nous, Seigneur. Que même si les autres nous abandonnent, même si les autres meurent, tous ceux qui nous aiment, toi, éternel, tu nous aimes. Tu nous donnes un amour éternel. Mm.
Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'occasion que nous pouvons recommencer parce que tu nous aimes tellement, tu es mort à la croix pour nous. Merci, Seigneur, que nous pouvons vraiment vivre ça. Nous te louons. Amen.
Amen.
Seigneur, quand j'étais jeune, j'ai vécu des années comme une chrétienne athée. Et Seigneur, pendant tout ce temps, tu n'as jamais lâcher ton regard sur moi. Et tu m'as un jour attiré avec tes cordages d'amour. Et Seigneur, depuis, tu remplis mon cœur de ton amour par ton esprit. Et ta vie, Seigneur, est en moi. Et je veux te louer, te bénir et t'adorer, Seigneur, te remercier parce que je te dois tout. Alors loué sois-tu et béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Oui, Seigneur, c'est aussi une chose que je retiens ce matin, c'est que tu es ce Dieu qui ne lâche jamais. Ton peuple s'est détourné de toi bien souvent. Nous aussi ne faisons pas toujours ce qui est bon et juste à tes yeux, mais nous savons et nous nous rappelons que tu es celui qui ne nous abandonne jamais. Et que tant qu'il y a un souffle de vie, il y a une espérance, un retour possible vers toi, une nouvelle chance en toutes circonstances. Alors merci Seigneur de ce que nous pouvons venir à toi, invoquer ta grâce et ta bénédiction sur nous et reprendre ce chemin avec toi, car tu es celui qui ne lâche pas. Béni sois-tu Seigneur. Amen. 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 Nous voulons encore louer ce Dieu au travers de la scène que nous voulons partager tout à l'heure et je vous invite à vous lever pour chanter la majesté de Dieu et entrer ainsi dans ce temps de Sainte-Cène. Vous pouvez reprendre place. Le psaume 46 nous rappelait, au travers du psalmiste, « Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il a accomplis sur terre. » Oui, Dieu a fait des choses incroyables, on l'a aussi vu au travers de ce récit d'Osée, hein, un signe parfois choquant, mais signe incroyable de l'amour de Dieu. Et c'est bien ce que Jésus dira aussi à Nicodème, que Dieu fait des choses incroyables. J'aimerais vous lire juste quelques versets. Donc Jésus parle à Nicodème, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pouvez-vous croire ?» Ou pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes ? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En prenant tout à l'heure ce pain et ce vin, nous confessons, nous croyons que Jésus est venu pour sauver notre vie et pour nous donner la vie éternelle. Et en prenant ce pain et ce vin, nous voulons aussi recevoir de lui toute la joie, toute l'espérance, toute la bénédiction que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Nous voulons lire l'institution de la scène.
Je lis dans Luc 22, versets 14 à 20. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de bénédiction et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partageant en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. »
Prions. Oui, notre Seigneur, la preuve de ton amour, c'est que tu nous as envoyé le Seigneur Jésus. Que tu l'as envoyé pour qu'il puisse résoudre notre problème du péché. Et Seigneur Jésus, la preuve de ton amour, c'est que tu es allé jusqu'à la croix. Que tu étais d'accord de te laisser sacrifier comme un criminel sur la croix. Et voilà devant nous les éléments qui représentent ce sacrifice, le corps brisé, le sang qui a coulé. J'aimerais te louer. Et nous voulons te louer tous ensemble. Pour toujours, Seigneur, pour cette preuve d'amour que tu es venu dans ce monde, que tu as donné ta vie pour que nous puissions être pardonnés, délivrés de nos péchés, pour que nous puissions nous mettre en règle avec toi et marcher avec toi, parce que tu nous aimes tant. Merci, Seigneur. J'aimerais te prier que tu bénisses ce moment de ce partage du pain, de la coupe, Seigneur. Que tu bénisses ce pain, cette coupe et cette communion autour de ta table à laquelle tu nous invites. Merci Seigneur. Merci de tout notre cœur pour ce sacrifice, pour ce signe de ton sacrifice. Oui, nous voulons te remettre à la première place, Seigneur. Nous voulons réaliser que tu es vraiment ce Dieu qui a tout donné pour que nous puissions, être heureux et te suivre. Merci, Seigneur. Amen.
Voilà, j'aimerais demander 3 personnes pour nous aider à distribuer cette sainte scène. Je vous rappelle qu'il y a au milieu de du vin des petites coupelles de jus de raisin pour ceux qui le désirent. Il y a aussi une coupe de vin. Si vous voulez boire à la coupe, faites-moi un petit signe et je viendrai vers vous. Nous voulons vivre encore le temps de l'offrande, demander au Seigneur qu'il puisse nous donner toute sa générosité. Et je vous inviterai à vous lever. Nous voulons chanter encore un dernier chant, le 454. Nous pouvons dire à Dieu notre reconnaissance pour tous ces bienfaits qui se renouvellent jour après jour. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous avons chanté, tu as fait de grandes choses pour nous. Toi qui nous as réconciliés avec toi-même au travers de ton Fils Jésus-Christ, toi qui as réconcilié aussi, tu nous as réconciliés avec nous-mêmes et tu nous as aussi réconciliés avec les autres, avec le monde. Et tu nous appelles, Seigneur, à vivre ce ministère aussi de la réconciliation. Tu nous envoies dans le monde pour que nous puissions témoigner de l'œuvre du Christ et être parlé, partagé de cette réconciliation possible entre les hommes et Dieu. Et nous voulons prendre à cœur, Seigneur, cet appel et remplir cette mission. Merci pour cet argent, Seigneur, qu'il puisse servir à cela. Nous te demandons de bénir tous ceux et toutes celles pour qui il est destiné et qu'il soit bien géré, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place. Il y a encore quelques annonces à la fin de ce culte. Merci Michel, je crois. Voilà.
Voilà les annonces de ce dimanche. Première annonce, samedi 20 février, Free Time, donc le groupe des jeunes adultes des églises frais de notre région, donc aussi les jeunes de l'église de l'Espérance, sont conviés à une visite de la fondation Bodmer, suivie d'une raclette. Vous pouvez vous inscrire auprès de Benjamin, auprès de Tichuan. Merci Tichuan. Voilà, 28 février, c'est juste 28 février ce que je dis là. C'est juste, je l'ai fait de tête parce qu'on n'a pas reçu le fichier avec les annonces comme d'habitude, alors j'ai dû les reconstituer. 28 février, une formation de louanges avec les musiciens du groupe Aslan à l'église de l'Espérance au Grand Lancy à partir de 14h. 13h30, voilà. Auprès de l'inscription. Auprès de l'Espérance. Alors tu enverras le mail à qui ? À conseil à l'espérance, à info à l'espérance. Alors, donc cette formation, c'est sur inscription, il faut envoyer un mail à info à église-l'espérance.com. Voilà. Vendredi 4 mars, il y a le colloque. On a parlé de l'offrande. Il y aura le vote des comptes et également le vote du budget. Et puis, pas mal d'informations sur la vie de l'Église. Mardi 8 mars, le fil d'argent à 14h30 avec la présence de Anne-Claude Yona, responsable de la mission Lèpre pour la Suisse romande. Et puis, on a parlé de témoigner de l'œuvre du Christ. Voilà une occasion qui nous est offerte, hein, l'organisation au Centre œcuménique du Chemin de la Passion. La fête d'inauguration, c'est le 12 mars. Et puis, on a, pour mettre en place tout cela, besoin de... Voilà, vous avez tous les horaires. Voilà, j'en étais là. De personnes pour le montage, le démontage, donc quelque chose de pratique, mais également pour accueillir le public, pour être une présence, pour pouvoir éventuellement discuter. Donc, quelque chose de plus rationnel, relationnel, pour l'animation avec les enfants, la confection de pâtisserie. Il y a des panneaux dans le foyer sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Un peu plus loin, dans le mois de mars, il y aura Service Pâques. C'est Claudie qui est le point de contact pour cette action. Voilà, le groupe mouvement, vous vous rappelez, nous cherchons à comprendre qui nous sommes pour savoir qui nous voulons devenir. Et vous avez reçu, ou vous pouvez encore recevoir, ce questionnaire qui permet un peu de faire le point sur d'où venons-nous, qui sommes-nous, quelle est notre activité actuelle dans l'Église, depuis combien de temps est-ce que nous y sommes, enfin toutes sortes de questions. Vous pouvez... remettre ce questionnaire si vous y avez déjà répondu. Là, il y aura une boîte où vous pouvez glisser dedans. Et puis, j'ai encore quelques exemplaires si vous voulez encore le remplir. Voilà, peut-être encore deux nouvelles. La première, Sylvain Dupertuis est en voyage à partir d'aujourd'hui. Il est parti ce matin au Laos pour 15 jours, 3 semaines. Un mois pour visiter les églises sœurs au Laos et également les actions que notre fédération d'églises y déploie. Et peut-être encore une information, vous savez que Jean-Yves Muller a eu un problème cardiaque, qu'il a été hospitalisé. Il est maintenant... Il n'est plus au service des urgences, il rentrera à la maison vraisemblablement dans le courant de cette semaine. Il a dû avoir la pose d'un stent à la suite de ce problème. Voilà. C'est pour ça que c'est moi qui ai la boîte aujourd'hui, parce que normalement c'est lui qui recueille les questionnaires.
Je vous invite donc à demander la bénédiction de la part du Seigneur. Prions. Seigneur, par tout ce que nous avons entendu ce matin, ce que nous avons lu, ce que nous avons chanté, nous réalisons que tu es un Dieu d'une grande fidélité, d'une bienveillance envers nous. Et c'est avec ces encouragements que nous voulons partir dans cette semaine. Merci Seigneur de nous accompagner. Merci de nous guider encore par ces cordes d'amour, par ces liens de tendresse. Et nous voulons simplement te dire que nous t'aimons, nous aussi. Nous voulons te dire merci, merci pour tous ces bienfaits. Et nous voulons te demander que tu nous bénisses, que tu nous gardes, que tu bénisses aussi nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, Seigneur. Nous prions pour Sylvain maintenant qui est en route pour le Laos, que tu le gardes, qu'il puisse être une bénédiction pour ceux qu'il va rencontrer. Nous prions pour Yves, que tu le relèves, que tu le guérisses, Seigneur. Merci que tu es avec lui, avec sa femme, avec sa famille. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous tous. Nous voulons vraiment te donner toute la gloire. Et merci pour tes bénédictions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.